Valérie Niquet, bonjour.
Bonjour.
Le Japon, quelle est sa place aujourd'hui dans le monde ?
C'est toujours la troisième puissance économique mondiale, il ne faut pas l'oublier, avec 120 millions d'habitants, alors que la Chine est au numéro 2, mais 1,4 milliard d'habitants. C'est un pays qui reste très riche. En PIB par habitant, il est au-dessus de la France, par exemple. Donc c'est un pays qui reste, en termes de force de consommation, d'un marché important. Donc le Japon n'est pas du tout fini en tant que puissance économique. Ce qui est vrai, c'est qu'en termes d'innovation, l'investissement en matière de recherche sur et développement, qui avait connu un certain affaiblissement, devrait reprendre d'une manière beaucoup plus active pour que le Japon puisse se maintenir à la pointe dans les secteurs clés, comme par exemple l'intelligence artificielle. Mais on voit aussi que la Chine, elle, est capable de mettre, c'est la nature même du système politique, énormément de fonds quand le Japon est obligé de tenir compte de contraintes qu'imposent les systèmes démocratiques.
Vous parliez du vieillissement de la population, de la baisse de la natalité. À quoi sont-ils dus ?
D'abord, le Japon, traditionnellement, est un pays où l'espérance de vie est une des plus longues, avec la France d'ailleurs. Mécaniquement, le nombre de personnes âgées augmente considérablement. L'autre versant, c'est que les jeunes Japonais hésitent, un, à se marier et deux, à avoir des enfants. C'est un taux de natalité qui est un des plus bas au monde, notamment à cause du fait que la société n'est pas encore du tout adaptée au mode de fonctionnement d'une mère de famille qui souhaiterait à la fois travailler et élever une famille nombreuse. Lorsqu'on regarde l'échelle de l'équilibre des genres dans le monde, la place du Japon est une des plus mauvaises. Je crois qu'il est juste derrière la Corée du Sud. La place de la femme, la manière dont on accepte les femmes avec un rôle de responsabilité est encore très marquée par une vision féodale et totalement dépassée. 70% des femmes travaillent au Japon. Elles ont énormément de mal à atteindre une position de responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup choisissent de travailler pour les entreprises étrangères, où elles ont plus de chances de monter.
Vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre des bureaucrates japonais qui seraient une sorte de frein pour leur pays. Dans quelles circonstances ?
La bureaucratie au Japon est une sorte de pèse, un poids considérable, qui aujourd'hui a tendance à reproduire des modes de pensée. Essentiellement, ces bureaucrates sont masculins, très autonomes, les bureaucraties des grands ministères. L'idée étant qu'elles restent, alors que les pouvoirs politiques changent très rapidement, elles préservent en quelque sorte leur précaré, leur capacité de décision, et elles font preuve en général d'une très grande réticence devant tout ce qui peut être des réformes nécessaires, y compris en termes d'image pour le Japon.
Et cette manière de fonctionner des bureaucrates, c'est un problème pour les rapports du Japon avec le reste du monde ?
C'est un problème. Le fonctionnement de la bureaucratie japonaise, dans la mesure où c'est une bureaucratie qui est très habituée à communiquer ou à fonctionner pour elle-même. C'est-à-dire que les actions sont souvent menées en fonction de ce que pourra penser la hiérarchie, plus qu'en fonction de ce qui pourrait être ou l'intérêt du Japon ou les exigences en termes de communication. Une des grandes limites du Japon d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à communiquer avec le monde extérieur selon des règles auxquelles le Japon n'est pas habitué. C'est cet esprit insulaire aussi qui est encore très puissant. Le Japon a été fermé pendant des siècles et a encore du mal à comprendre que le monde extérieur regarde le Japon et attend une communication qui soit autre chose que des déclarations officielles.
Dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, vous y consacrez un chapitre. Est-ce que les traditions bloquent les évolutions sociales ?
Ce qui est certain, c'est que dans les traditions, on peut quand même placer encore, et on y revient, le rapport entre les hommes et les femmes qui, lui, a très peu évolué, y compris dans l'esprit de nombreux jeunes. Récemment, à l'université de Tokyo, qui forme l'élite de la nation, un peu comme l'ENA chez nous, le département de droit de l'université de Tokyo est vraiment le cœur des futurs leaders de la nation. Dans cette université, il y a moins de 20% d'étudiantes. Il faut passer un concours pour entrer à l'université. Et la doyenne, c'est une femme exceptionnellement, a fait un discours en s'étonnant du très faible nombre de femmes qui réussissent cet examen. Certains soupçonnent même l'université de peut-être jouer sur les examens, un peu comme les universités médicales l'ont fait. Ça a causé un scandale, limitant volontairement le nombre de filles qui réussissent les examens. Mais il y a aussi le fait que beaucoup de filles s'auto-restreignent parce que les garçons disent en revanche « Oh mais jamais nous n'épouserons une fille sortant de Todai, elles sont beaucoup trop fortes, elles ont beaucoup trop d'ambition. » Donc ce modèle, y compris chez des jeunes qui sont la future élite de la nation, se reproduit, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Et on le voit très bien aussi quand on prend le métro où les groupes de filles sont souvent séparés des groupes de garçons. On n'a pas du tout ce mélange filles-garçons qu'on peut voir d'une manière tout à fait habituelle. Chez nous, même si la mixité peut avoir aussi des problèmes, au Japon, c'est l'extrême contraire. Il y a vraiment la culture féminine et la culture masculine.
Autre question que vous posez dans votre livre, le Japon est-il un pays asiatique occidental ?
Alors, le Japon s'est ouvert à l'Occident par la force, entre guillemets, exactement selon le modèle chinois impérial, c'est-à-dire que les Américains sont arrivés au Japon au milieu du 19e siècle et ont imposé ce qu'on appelle les traités inégaux pour que le Japon s'ouvre. La grande différence, c'est que le Japon a décidé effectivement de s'ouvrir et d'apprendre de l'Occident, de se développer, de devenir aussi puissant que l'Occident avec les règles des pays occidentaux et de s'imposer comme une grande puissance, ce qu'il a réussi en dépassant même, entre guillemets, les objectifs, puisque en s'alliant avec l'Allemagne nazie et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est apparu comme une superpuissance colonialiste, impérialiste, ce qui a profondément marqué son avenir après la défaite de 1945. Il avait fait les mauvais choix, mais il s'était développé et c'est un véritable pays très occidentalisé dans sa modernisation. C'est un peu un cliché de le dire, mais c'est aussi un pays qui a su conserver, sans doute parce que cette ouverture s'est faite finalement à la fin du 19e siècle, relativement récemment, qui a su conserver toute une série de pratiques, de modes de consommation, y compris de modes d'habillement d'ailleurs, qui sont totalement ancrés dans la tradition. Et c'est aussi ce qui fait d'ailleurs le charme, la richesse et l'intérêt, et aussi la créativité de ce pays. Quand on parle du design japonais, de l'architecture, qui sont très très séduisants dans le monde entier, très souvent quand on connaît, on peut les rattacher à des traditions ou à des arts populaires. Quand on parle des fameux Pokémon, ces dessins animés, ces personnages, et qu'on connaît l'histoire du Japon, on voit qu'ils sont tous très souvent copiés ou inspirés par tous ces esprits, ces monstres, ces fantômes qui peuplent l'imaginaire japonais et qui sont encore très présents, mais sous une forme modernisée.
Est-ce que le Japon est un modèle en déclin ? Voilà, c'était la question que vous posiez au début de votre livre. Quelle est votre conclusion ?
Le Japon, qui est une économie mature, ne peut pas connaître et ne connaîtra jamais les taux de croissance que la Chine ou des pays en développement ont connus ou connaissent encore. En revanche, s'il arrive à accomplir ses progrès, notamment sur le rôle de la bureaucratie, des femmes, la manière dont on accueille les jeunes, le Japon est aussi un modèle qui peut nous inspirer. On parle du vieillissement de la population au Japon, mais c'est quelque chose à quoi est confronté l'ensemble des sociétés développées occidentales. Le Japon, en la matière, a des idées à nous apporter. Le fait que les personnes âgées travaillent très longtemps, ça veut dire aussi qu'on a des travaux à leur offrir ou des statuts dans l'entreprise à leur offrir ou à travers, encore une fois, des clubs ou des associations très dynamiques. Sans doute parce que c'est des sociétés aussi où la personne âgée est plus valorisée que chez nous, où c'est vraiment les grands oubliés du monde contemporain et plus encore les femmes vieillissantes d'ailleurs. Et donc tout ça au Japon, ça peut être un modèle pour nous. L'utilisation des robots par exemple, ça peut paraître anecdotique, le fait qu'au Japon, le robot domestique, on peut trouver ça pathétique d'avoir finalement un chien robot qui vous tient compagnie et je caricature, ou qui accomplit certaines activités. Mais au Japon, peut-être, parce que justement il y a cette idée que toutes les choses sont une sorte d'esprit, de kami, aussi bien le robot que l'aiguille à coudre, il y a des temples pour remercier les aiguilles à coudre, et bien tout ceci fait que l'intégration harmonieuse de la technologie et de la société, du social, c'est aussi peut-être quelque chose à prendre en compte, et puis aussi surtout quelque chose que nous avons perdu, qui est une sorte de cohabitation sociale harmonieuse. La société japonaise est une société qui, en dépit de toutes ses limites, fonctionne et est capable de s'adapter, est extrêmement confortable à vivre, et donc ça c'est quelque chose dont on pourrait aussi s'inspirer.